Bienvenue sur le cours de F6KGL et ce soir la séance va porter sur le début de la partie technique, le tout début, puisque on va parler de rappel de mathématiques et d'algèbre. Alors il y a peut-être beaucoup de les petits jeunes là, ceux qui sont pas trop loin des cours et des salles de classe, ça va leur ça va pas trop les ils vont pas trop apprendre de trucs ce soir, mais je pense surtout aux anciens, et donc ceux-là ils ont besoin d'un peu de rappel de mathématiques et d'algèbre, parce que malheureusement il en faut un peu pour se préparer à l'examen radio amateur, même si j'ai beaucoup de formules qui sont pré-mâchées, mais il y a quelques trucs à connaître pour arriver à se débrouiller, et aussi toute la problématique des multiples et sous-multiples qu'on va voir donc aussi ce soir. Pour l'utilisation d'une calculette, qu'on va pas faire ce soir, on fera ça la semaine prochaine. Alors c'est vrai que la semaine prochaine, à distance, c'est pas aussi évident que ça. Quand on est au Radio Club, on peut plus facilement discuter, parce que chacun vient avec une calculette différente, et donc on essaye de trouver la solution pour la faire fonctionner. Et c'est peut-être un peu difficile pour vous à distance. Et là, malheureusement, confinement oblige, je suis obligé de le faire à la maison. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser la même calculette que moi, c'est-à-dire une calculette, une FX92 collège, mais quand je dis collège, c'est collège 6e. Donc il faudrait faire la poche à des petits jeunes qui sont passés en 5e ou en 4e et qui n'ont donc plus besoin de leur calculatrice collège 6e. Et vraiment, celle-là, c'est l'idéal, parce qu'elle est toute simple et il n'y a pas trop de fonctions compliquées, puisque plus c'est compliqué, plus c'est difficile à expliquer et à paramétrer. Voilà, donc on reviendra là-dessus la semaine prochaine, mais je préférais vous prévenir tout de suite, comme ça, si vous avez l'occasion de tomber sur une FX92, et bien comme ça, on aura le même matériel. Voilà, donc ce soir, on voit donc les rappels de mathématiques. Première chose, donc toutes les formules que l'on va voir, parce que malheureusement, il y a beaucoup de formules à connaître. Toutes ces formules, elles s'imbriquent les unes dans les autres. On verra ça au fur et à mesure. Et elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, il va falloir trouver des passages pour transformer finalement certaines formules et arriver à ce que l'on veut calculer. Donc, premièrement, une formule, c'est la plupart du temps, c'est une équation. Et une équation, c'est quoi? C'est une expression mathématique qui indique que les deux termes, c'est-à-dire les deux côtés, les deux formules de chaque côté du signe égal, ont la même valeur. Ça semble tout simple et tout ça, mais autant l'expliquer. Donc ce qui est important, c'est le signe égal, et de chaque côté de ce signe égal, eh bien, on fait passer les deux valeurs, les deux termes sont égaux. Et l'idée, là, c'est de résoudre des équations. Alors, nous, on va résoudre des équations à une inconnue, qui est donc x, et avec une seule équation, parce que, évidemment, on peut compliquer les choses, mais c'est pas là ce soir. On n'en fera pas, et de toute façon on n'en a pas besoin non plus. En revanche, on va avoir besoin de systèmes, de s'y retrouver pour transformer des équations Donc à partir d'une formule originale que l'on apprend par cœur, eh bien c'est essayer de retrouver d'autres formules qu'on a, qui sont donc des formules transformées de la formule initiale. Donc ce que l'on va voir, c'est comment transformer une addition, une multiplication, mais aussi, enfin multiplication et division, enfin quand on parle de addition systématiquement, on a la soustraction qui va avec, multiplication va avec division, et puissance et racine carrée vont aussi ensemble. Donc en fait, on va voir ces trois transformations. C'est encore une fois, c'est de la redite, donc les petits jeunes là, ils vont trouver que je fais un peu papy, mais voilà, c'est le béaba de la transformation voilà, de la transformation d'équation. Donc je me mets là, si j'ai pas merdé. J'ai donc mon bel écran. On va commencer par la soustraction. Donc j'ai par exemple x plus a égale c moins d. Ça c'est la une expression mathématique, une formule. Donc ça c'est ma formule de base. Et ce que je vais essayer de faire, puisque mon x, alors a, c et d, ce sont des données que je connais, qui me sont données dans l'exercice. Donc je n'ai pas à réinventer l'eau chaude, hein. Ça marche tout seul. Donc on va dire a égale une valeur, et puis évidemment de l'autre côté, on doit avoir les mêmes valeurs de chaque côté. Et ce que je veux faire, c'est avoir x, qui est donc ici, d'un seul côté de mon équation, donc d'un seul côté de mon signe égal, et donc le a qui est là, eh bien je vais essayer de le faire passer de l'autre côté, pour que j'ai mes trois données qui soient du même côté, justement. Donc comment faire pour cela ? Le seul moyen, c'est de transformer une équation. Si je veux la transformer et qu'il y ait toujours l'égalité au milieu, il faut que je fasse la même opération de chaque côté de mon équation, donc sur les deux termes. Par exemple, je vais ici, de ce côté-là, x plus a, je vais rajouter moins a. Et donc ça va me faire c moins d moins a, puisque je suis obligé de rajouter ici la même chose de chaque côté de mon signe égal. D'accord ? Donc ce qui veut dire que au final, j'ai donc x plus a moins a égale c moins d moins a. Or, a moins a, ici, ça, par définition, ça fait 0. Donc, ça me fait donc x plus 0, ça me fait x, égale à c moins d moins a. Donc, je vois que lorsque je fais passer une valeur qu'il y a d'un côté de mon signe égal, lorsque je la fais passer de l'autre côté, je change de signe. C'est-à-dire que mon plus a devient de l'autre côté moins a. Donc je change de signe. Et si j'avais eu ici x moins a est égal à c moins d égal à c moins d, il aurait fallu donc que je rajoute plus a. Et donc ici aussi plus a, donc on aurait eu aussi un changement de signe. D'accord ? Donc mon addition que j'avais ici se transforme en soustraction lorsque je passe de l'autre côté de mon signe égal. D'accord ? Ça, c'est la première. Deuxième, c'est la multiplication et la division. Donc, là, je vais utiliser toujours mes deux choses. Donc, x multiplié par a est égal à c multiplié par d. Je vais utiliser le même raisonnement, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de faire la même opération des deux côtés. Je fais la même opération, et donc là, ce que je vais faire, parce que le but du jeu, c'est d'essayer d'éliminer ici mon a. Et comment je peux éliminer mon a? Je ne peux pas faire de soustraction là, puisque je suis avec une multiplication. Donc je suis obligé d'utiliser le même opérateur, enfin, tout au moins un opérateur qui aille avec la multiplication. L'opérateur qui va avec la multiplication, c'est la division. Donc là, ce que je vais faire, c'est x multiplié par a divisé par a est égal à c multiplié par d divisé par a. Alors, j'aurais dû l'écrire pas de cette manière-là, mais allez voir, j'aurais dû l'écrire comme ça. Pour être certain de ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc, même chose, ici, cet ensemble-là, a divisé par a, ça fait 1. Et x multiplié par 1, bah, c'est toujours x. Donc, j'ai réussi à éliminer mon a qui est passé donc de l'autre côté de mon signe égal. Et vous remarquez que là, je n'utilise plus une multiplication comme j'ai utilisé ça, mais j'utilise une division. Et finalement, mon a, au final, hein, x est égal à c multiplié par d divisé par a. Donc mon a, là, il est passé en dessous. Il est divisé, en fait. Donc il est passé en dessous. Et si j'avais eu x, non pas x multiplié par a, mais x ici divisé par a, j'aurais donc multiplié par a pour l'éliminer, et donc il serait arrivé en haut. Donc en fait, là, lorsque je change lorsque je passe de l'autre côté, je change d'opérateur. L'opération qui était multiplication devient division et inversement. Voilà. On change de multiplier à diviser et inversement. Je lis vos messages sur le chat, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez intervenir, ça doit fonctionner. Donc voilà, ça c'est les opérateurs classiques. Et il y a un troisième opérateur qui est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, mais dont on va avoir besoin, ce sont les puissances et les racines carrées. J'efface donc ça. Et au miracle de ces jolis tableaux magiques, tout est à peu près parti. Quoique le rouge, il semble un peu coriace. Donc ma racine carrée et ma puissance, j'ai par exemple x carré égale b. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas x carré, c'est x. Encore une fois, donc le carré, il vient m'embêter un petit peu. Et la seule manière de supprimer ce carré, c'est d'utiliser racine carrée. Donc je fais racine carrée, mais des deux côtés. Donc je fais racine carrée de x2 égale racine carrée de b. Alors racine carrée de x2, je suis un petit peu gêné là, parce que si on est dans un monde de comment dire, analogique, en règle générale, du coup, les valeurs sont toujours positives, sauf les intensités et les tensions qui peuvent être négatives. Mais bon, ça va compliquer un peu les choses. Mais donc, la résultante, ce n'est pas x ici, c'est la valeur absolue de x est égale à racine carrée de b. D'autant plus que b, je peux avoir ici un b négatif. Hein. Quoique c'est difficile puisque ici j'ai un x2. Donc x2 ne peut être que positif. Et donc ici b ne peut être que positif. Voilà. Enfin bon, en théorie, voilà comment ça fonctionne. Et donc, après, je retire ici la valeur absolue qui, encore une fois, ne me sert pas à grand-chose dans tout ce qu'on va voir comme formule à la suite. Donc, ce qu'il me reste, c'est x égale racine carrée de b. Même chose, si j'ai racine carrée de x égale b, eh bien là, je vais pas faire... je vais prendre l'autre formule, c'est-à-dire la mise au carré, que j'écris comme cela. Hein, la mise au carré, c'est le petit chapeau chinois là pour montrer que c'est la puissance. Hein, c'est la puissance de 2. Et donc, ici, racine carrée de x égale b, si je fais puissance 2, ça me fait racine carrée de x au carré est égal à b au carré, et encore une fois, ça c'est donc la valeur absolue de x, mais aussi x égale b au carré. Donc j'ai bien réussi à chaque fois à récupérer la valeur x que je veux connaître à partir de d'autres valeurs. Alors, évidemment, on peut après complexifier un petit peu en mélangeant des additions, des multiplications et des puissances. Ça devient compliqué. Mais voilà. Voilà, première approche. Je reviens sur mon PDF. Donc première approche, et c'est les transformations donc d'équations. On va passer maintenant un peu plus en détail sur... la terminologie. C'est bien pour vous rappeler des termes qui, des fois, on oublie. Alors, le résultat d'une addition, bah, tout le monde le sait, c'est une somme. Donc ça, c'est pas... J'ai rien... je pense que vous ne découvrez rien. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. D'accord ? En revanche, après, ça peut être un peu plus compliqué lorsque le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Hein, donc quand on parle de produit en technique, produit égale multiplication. Il faut bien se foutre ça dans la tête. Et donc le produit, il peut ce signe de multiplication. Il est un petit peu traité de manière bizarre en mathématiques. Généralement, dans ce que je viens de présenter, le chiffre de multiplication, c'est la croix, hein, le x de la croix. Et donc, en mathématiques, en règle générale, on n'utilise pas ce x parce que justement, il peut être confondu avec le x, l'inconnu. Et donc, on va préférer utiliser un point. Donc, au lieu d'écrire A multiplié par B de cette manière-là, on va écrire A point B. Et ça veut dire donc A multiplié par B. Ou, encore plus simple, on écrit AB comme ça. Alors, en supposant que A et B sont deux valeurs différentes et non pas une valeur de je sais pas quoi. Voilà. Mais en règle générale, quand on donne une lettre, ça correspond à une donnée. On a rarement, pour une donnée, quelque chose qui a deux lettres. On préfère utiliser une seule lettre. Important aussi, le résultat d'une division, ou d'une fraction, hein, c'est pareil, division-fraction, c'est le même terme, ça s'appelle un quotient. D'accord ? Donc, c'est peut-être un vocabulaire un peu plus recherché. Et donc, la division, en règle générale, c'est la barre de fraction, comme celle-là. Mais elle peut aussi se présenter avec ce que j'ai présenté tout à l'heure quand j'ai présenté ma transformation de multiplication et de division. La représentation de cette manière-là est plus lisible mathématiquement. On comprend mieux ce que c'est que lorsque c'est écrit comme ça. Quand c'est écrit comme ça, c'est plus du traitement de texte. Donc ça, je l'utilise beaucoup dans le cours ou dans les commentaires dans examen, quand on donne les formules et la manière d'arriver. Évidemment, c'est du traitement de texte, donc je vais plutôt utiliser ici la barre de fraction. Mais la vraie manière de présenter, la manière mathématique de présenter une fraction, c'est de cette manière-là. Avec un terme bien particulier ici, ça s'appelle le numérateur en haut, et en bas le dénominateur. Voilà. Et vous avez aussi, comme l'indique Cyril, la division, elle peut aussi s'écrire, d'ailleurs sur les calculettes c'est souvent comme ça, par deux points, par deux petits points. Et généralement, même sur les calculettes, c'est deux petits points avec un trait au milieu. Un trait horizontal au milieu pour bien montrer que c'est le trait ici du rapport mathématique qu'on a là. Voilà. Donc on a plusieurs manières de... plusieurs signes mathématiques pour écrire une fraction. Moi, j'utilise essentiellement le trait de fraction comme ça. Donc voilà, ça c'est de la terminologie. À l'instant là, on a vu chacune des opérations, c'est-à-dire addition, soustraction, puis multiplication, division, puis les puissances et les racines carrées, de manière individuelle. Mais évidemment, dans toutes nos formules mathématiques, il y a bien des savants fous qui ont imaginé à mélanger, évidemment, tout cela. Ce qui va nous poser problème, qui pose problème, non, faut juste bien comprendre comment ça s'articule. Parce que quand les opérations sont combinées, elles doivent être traitées dans un ordre précis. Et cet ordre précis, c'est quoi? C'est d'abord la puissance ou la racine carrée, puis après la multiplication, et enfin l'addition. C'est-à-dire que si on a donc cette formule-là, donc A est égal à B multiplié par C, plus D au carré, si on ne met aucun autre signe, eh bien, on va commencer par calculer D que l'on va mettre au carré, puis on va faire la multiplication B multiplié par C, et enfin, on va additionner ces deux résultats, c'est-à-dire B multiplié par C avec D au carré. C'est dans cet ordre-là que ça doit être fait. Si on veut pas que ce soit dans cet ordre-là, parce que sinon la formule mathématique ne marche pas, et imaginons que la formule mathématique, ce soit C plus D qu'il faut mettre au carré, dans ce cas-là, on rajoute des parenthèses. Et l'ordre des parenthèses, ça vient remettre en question toute la logique que l'on a sans parenthèse. C'est-à-dire que là, on va commencer par ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, évidemment, si dans la parenthèse, il y a par exemple B multiplié par C plus D, encore une fois, on commence par faire B multiplié par C, on rajoute D, et ce qui donne ici ce qu'il y a entre parenthèses. Hein? Donc la parenthèse, c'est juste, on remet en cause l'ordre, quoi. Et on dit dans quel ordre on doit faire les opérations. Donc on commence par faire les opérations qu'il y a dans la parenthèse, et dans l'ordre des opérations combinées, lorsqu'il y a des opérations combinées qui sont à l'intérieur de la parenthèse, évidemment on peut aussi compliquer et mettre deux parenthèses les unes dans les autres. Voilà. Et une fois qu'on a cette place de la parenthèse qui a remis les choses en place, donc là je commence par faire mon C plus D, qui normalement il doit être fait à la fin, hein, vous remarquerez. Puis après, on reprend l'ordre, donc on met au carré, puis après, on multiplie. On multiplie, donc cet ensemble-là, C plus D au carré, et on le multiplie par D. D'accord ? Donc c'est très important, cette place des parenthèses, et quand vous apprenez une formule, il faut absolument se souvenir aussi de la place des parenthèses, parce que sinon, vous êtes sûr que le résultat, il est faux. Donc, juste un truc, les parenthèses, c'est pas si... Faut s'en souvenir, mais surtout, ne paniquons pas, parce que les calculettes, elles, connaissent les parenthèses, elles peuvent les imbriquer les unes dans les autres. Alors, selon les calculettes, ça peut aller jusqu'à 20 ou 30, parenthèses imbriquées les unes dans les autres, donc c'est inutile de vous dire que pour nous, c'est largement suffisant, mais on peut s'amuser comme ça. Donc une fois qu'on a dit qu'on remettait en cause cet ordre, on peut aussi voir de quelle manière on simplifie les opérations. On a vu tout à l'heure qu'on simplifiait lorsque on a, ici si j'ai A plus B plus C moins B, donc ici j'ai plus B moins B, et donc ça va s'éliminer. Ce sont des valeurs qui sont de signes opposés dans une addition, et donc B moins B ça me fait 0, donc je l'élimine, ça ne me sert à rien. Ok ? De même, si j'ai deux mêmes valeurs au nominateur et au dénominateur, ici donc A plus B divisé par B plus C, j'ai 2 fois B, B divisé par B ça me fait 1, ça ne sert à rien, je l'élimine. De même, lorsque j'ai des chiffres négatifs, lorsque je soustrais un chiffre négatif, donc quand je fais une différence avec un chiffre négatif, par exemple, typiquement, quelle est la différence de température entre plus 3 et moins 5? Entre plus 3 et moins 5, intuitivement, on voit qu'on a 8 degrés. Eh bien, mathématiquement, comment on fait? On fait 3 moins moins 5. Puisque on cherche un écart, une différence, et donc l'écart entre, si j'avais entre 10 degrés et 7 degrés, je fais 10 moins 7, okay, et donc là, je fais 3 moins moins 5, et moins multiplié par moins, ici, soustraire un nombre négatif, ça revient à l'additionner, et donc ici, 3 moins moins 5, ça me fait 3 plus 5, donc 8. Et de même, alors ça c'est un peu plus tordu, lorsque j'ai une formule qui arrive à cette valeur, donc 1 divisé par A plus B, donc l'inverse de A plus B, l'inverse de A divisé par B, c'est B divisé par A. Et donc, ma ma valeur ici, en fait, ma fraction, je la retourne. Donc a plus a moins a divisé par b devient, pas 1 divisé par a divisé par b, devient b divisé par a. Voilà, donc voilà, on va, je pense que vous allez vous en sortir. C'était des rappels, mais des rappels qui sont quand même importants. Alors, je vais revenir sur la webcam, parce que ça c'est important, c'est deux méthodes qui vont être utilisées. Donc tout ce que je vais vous présenter après comme formule, parce qu'évidemment l'idée c'est de se souvenir d'une formule et de retrouver les autres très facilement, très rapidement. Et cette idée là, c'est ce qu'on appelle la méthode du triangle. La méthode du triangle, c'est quand on a des formules, comme par exemple P égale I ou U égale RI, donc simple, avec trois éléments. Je vais repasser sur la webcam. Donc j'ai par exemple une formule qui me dit A égale B multiplié par C. Donc j'écris A, B, C, je mets ça dans un triangle, et à partir de ce triangle, je vais pouvoir calculer si j'ai deux des éléments, là, donc imaginons que j'ai A et B, et que je veuille calculer C, avec ce triangle-là, je peux avoir réussir à retrouver toutes mes formules. Si je veux calculer C, en fait, je cache C, et je vois là que j'ai A au-dessus de B, donc C est égal à A divisé par B, tout simplement. Et si je veux calculer A, bah A est égal à B multiplié par C, c'est écrit ici. Donc ça, c'est là. Mais si je veux maintenant B, eh ben je cache ici B, et ça me fait A divisé par C, puisque j'ai A sur C. D'accord ? Donc ça, c'est la méthode que j'appelle méthode du triangle, qu'on va utiliser notamment avec les lois d'Ohm de Joule, mais aussi dans d'autres formules où on va avoir ce genre de formule où on a une mise en relation de trois éléments avec une division ou avec une soustraction. Lorsque j'ai ici, par exemple, si j'avais A égale B divisé par C, eh bien en fait mon triangle, il devient B A C. Et ça marche, puisque si je cache A, A est égal donc à B divisé par C. C'est exactement ce que j'ai ici. Et si je cache ici mon C, j'ai C est égal à B divisé par A, et B est égal à A multiplié par C. Donc, sans avoir ici à transformer ma formule, comme je viens de faire tout à l'heure, avec le triangle, j'arrive à retrouver toutes les autres formules sans trop me casser la tête. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ça en tête, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois quand on fait des exercices, il faut absolument que vous ayez sous les yeux ces triangles dont on va parler quand on va faire la loi d'Ohm et la loi de Joule. On va commencer par ça, donc ça va aller rapide. Et il faut que vous les ayez toujours sous les yeux pour que vous visualisiez ces différents rapports, et finalement ça vous évite comme ça d'avoir à apprendre, vous allez apprendre juste une formule, celle-là ou celle-là, et à partir de la formule, bien vous retrouvez toutes les autres formules, sans être obligé de faire à chaque fois de transformer vos équations, comme on vient de voir tout à l'heure. Deuxième Donc ça, c'est la méthode du triangle. On va aussi utiliser une autre méthode qui sont les rapports proportionnels. Alors les rapports proportionnels, on va les utiliser dans deux cas de figure essentiellement. On va les utiliser d'une part dans ce qu'on appelle les ponts de Wheatstone équilibrés. On verra ça quand on entend utile, mais assez rapidement. Et on va aussi les utiliser dans les transformateurs. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les rapports proportionnels, ce sont donc, par exemple, j'ai A divisé par B est égal à C divisé par D. OK? Ça, c'est un rapport proportionnel. Ça veut dire que mes deux rapports, là, sont égaux, identiques. Et donc, l'idée toujours pareille, c'est, par exemple, je ne connais pas, je connais A, B, C, mais je ne connais pas D. Et comment je fais pour le calculer? Alors, première solution, le C, c'est l'envoyer ici, et donc on voit bien que C est égal à A multiplié par C, est égal à A divisé par C multiplié par B. N'oubliez pas, dans ce cas-là, de mettre des parenthèses pour votre calculette, parce que sinon, elle ne va pas aimer. Donc, d'ailleurs, on en reverra quand on fera des exercices à la calculette la semaine prochaine. Mais l'idée, là, c'est d'utiliser une autre méthode que cette méthode de transformation. Visuellement, donc ça, c'est ce que l'on appelle le produit en croix. Ça s'appelle le produit en croix, c'est comme ça. Vous avez ici ce qu'on appelle la deuxième diagonale. Alors évidemment, cette deuxième diagonale va changer en fonction de ce que vous allez déterminer comme étant la partie à calculer. Là, en l'occurrence, ici, c'est ma deuxième diagonale, c'est-à-dire que c'est la diagonale où je n'ai pas ici la valeur à calculer. Ça, c'est la première diagonale automatiquement. Première diagonale. Et ici, ça, c'est la valeur opposée. Et le produit en croix, c'est quoi? C'est la valeur opposée divisée par le produit, donc la multiplication, de la deuxième diagonale. Concrètement, c'est quoi? Dans mon exemple, c'est A divisé par B multiplié par C, et c'est bien ce que j'avais multiplié, pas plus, et c'est bien ce que j'avais vu lorsque j'avais essayé de faire ma transformation mathématique, c'est-à-dire que mon C qui est là, comme je le passe de l'autre côté du signal, il passe en dessous, et il devient multiplié. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle les produits en croix ou les rapports proportionnels, c'est pareil. Vous remarquez juste, et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des calculs sur matrice. Donc, ça, c'est une matrice 2-2, donc c'est très simple. Les mathématiciens, les petits geeks là, qui nous suivent, ils vont vous expliquer ça tout seul. C'est que si ici, si c'est proportionnel, dans ce sens-là, ça va être aussi proportionnel dans ce sens-là. C'est-à-dire que si j'ai une équation A divisé par B est égal à C divisé par D, par construction mathématique, j'aurai A divisé par C est égal à B divisé par D. Voilà. Donc ça c'est important aussi. Ça permet des fois de se sortir de trucs un peu compliqués. Voilà. Et donc le premier, mon triangle, finalement, c'est ce qu'on appelle aussi la règle de 3. Voilà. Donc voilà, je vous passe le PDF de mes triangles, donc ma fameuse règle de 3, hein, c'est ce que l'on appelait avant la règle de 3. Moi, que j'appelle ça la méthode des triangles, mais c'est bien exactement la même chose. Et puis ici, le produit en croix, qui est donc, je rappelle, le produit en croix. Donc si je fais, donc ici on a fait avec D, on va pouvoir le faire avec C si vous voulez. Si je prends C, il faut que je fasse la valeur opposée, donc B, divisé par A multiplié par D, ou D multiplié par A, c'est pareil. D'accord ? Et vous vous souvenez bien que lorsque vous tapez ça sur la calculette, pour éviter tout problème, il faut absolument ici mettre des parenthèses autour de B, C. La calculette va savoir calculer ça, hein, pas de problème, mais par précaution, parce que dans quelques cas ça marche pas, évidemment, ça serait trop simple, vaut mieux utiliser les parenthèses, il vaut mieux mettre plus de parenthèses que pas assez. Voilà les transformations d'équations. On va passer maintenant aux multiples et sous-multiples, qui sont un autre sujet, et là qui sont un peu plus compliqués à mon sens. Vous comprenez bien que quand on est dans un monde de, comment dire, de techniciens, quand on rentre dans le monde de la radio, on commence à avoir des nombres qui peuvent être soit très grands, comme par exemple les fréquences. Une fréquence, ça va très loin en termes de nombres, ou au contraire, très petits, par exemple un condensateur, c'est toujours des valeurs très 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 petites. Et donc, quand on est, en règle générale en physique, hein, pas spécialement dans le monde de la radio, mais en physique en règle générale, on va utiliser plutôt des multiples et des sous-multiples. Alors multiples, ça veut dire que ce sont des grandeurs qui sont plus grandes que l'unité, et sous-multiples, au contraire, c'est des valeurs qui sont plus petites que l'unité. Hein, par exemple, la fréquence, c'est le Hertz. Et donc, on ne va jamais utiliser en radio, tout au moins, en BF, en audio, oui, on va utiliser le Hertz. Quand on est dans le monde de la radio, on va utiliser plutôt le kilohertz, le mégahertz, voire le gigahertz. Okay ? Lorsque, en sens inverse, on va plutôt dans le petit, on va utiliser des microvolts. Hein. Les microvolts, c'est les tensions que vous avez sur une antenne. En réception, quand vous êtes en émission, évidemment, c'est plutôt des volts, pas encore des kilovolts, parce que vous n'avez pas encore suffisamment de puissance, mais voilà, tout au moins, dans le monde radio-amateur, on ne va jamais utiliser des kilovolts sur une antenne. Les kilowatts, mais vous avez aussi les kilomètres et les kilogrammes. Voilà. Dans des multiples qui sont peut-être plus utilisés par le commun des mortels. Et donc, ces puissances de 10, elles sont. On va utiliser, nous, en radio, pour nos applications, on va plutôt utiliser. Pour les multiples, les 3, 6 et 9, c'est-à-dire kilo, méga et giga. Okay. En ce qui concerne les sous-multiples, on va plutôt utiliser les moins 3, moins 6, moins 9 et moins 12. Vous remarquerez que ça va systématiquement de 3 en 3. C'est-à-dire que ce sont des puissances de 10, et donc en fait c'est le nombre de chiffres avant ou après la virgule. D'accord ? Donc si je dis puissance 9, le gigahertz, j'ai donc 3 séries de 0 avant d'avoir complètement à gauche le nombre de gigahertz. D'accord ? On va voir plus précisément ça tout de suite. Et même chose pour les octets, on est plus facilement en gigaoctets, voire du teraoctets, maintenant quand on parle de mémoire. Donc voilà. on est bien dans les mêmes, et on va rarement au-dessus des 10 puissance 12 ou des 10 puissance moins 12, tout au moins après, c'est des cas un peu particuliers. Et en tout cas, on n'aura pas à les voir, ou tout au moins juste pour information. Donc ici, je vous ai mis les unités qui sont utilisées dans le cours. Alors il y en aura d'autres aussi, hein, mais les unités les plus courantes qu'on va utiliser dans le cours. Donc, on va utiliser évidemment les ohms, hein, les ohms. Donc, on va utiliser les résistances. Elles vont avoir des valeurs. Un mégaohm, ça fait déjà une belle résistance. Hein. Vous en avez, voilà, si vous avez une résistance de 1 mégaohm, il ne passe pas beaucoup d'intensité dedans. Et généralement, les résistances, elles ont plus des valeurs autour du kilo-ohm, voire à l'ohm. Mais rarement, enfin, il n'y a aucune résistance de quelques milliohms, ou tout au moins, c'est des trucs un peu particuliers utilisés dans des cas bien spécifiques et qui sont pas monnaie courante. Donc voilà, vous voyez ici, vous avez en tout, pour nos applications, on a trois multiples qui sont utilisés pour les ohms. Pour les ampères, eh ben on va voir l'ampère évidemment, mais on va avoir des milliampères, des microampères, et c'est tout, parce que le nanoampère, il n'y a pas grand chose. Hein. Quand on parle de nanoampères, il n'y a plus grand chose, et je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup d'instruments de mesure qui puissent le faire. Alors juste, ouais, pour le. Je vois qu'il y a une discussion sur le chat qui parle sur les octets. Quand on parle d'un kilooctet, c'est pas 1000 octets, hein, c'est 1024. Donc attention, c'est pas pile poil, ça va pas marcher exactement comme ça. Et puis même du coup le mégaoctet, alors je sais plus combien c'est, mais c'est un tout petit peu plus d'un million, puisque c'est 1024 fois 1024. Voilà. Donc c'est le seul cas où on va avoir des kilos qui ne sont pas exactement puissance de 10. Alors 1024, c'est quoi? Bah, c'est 2 puissance 10. Voilà. Donc, 2 puissance 10, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. 10 fois, ça fait donc 1024. Donc ça, c'est les ampères. Ensuite, on a les volts. Et on va là, par contre, avoir des kilovolts. Alors ça, c'est plutôt les alimentations des tubes. Quand on va avoir les amplificateurs, on va avoir les tubes, et certains tubes sont alimentés jusqu'à 1 kilovolt, donc 1000 volts. Bon, voilà, mais au-delà, c'est pas plusieurs kilovolts, hein, il n'y en a qu'un seul, c'est déjà pas mal. Le volt, le millivolt, et le microvolt, ça, c'est la tension que vous pouvez avoir sur une antenne. Donc inutile de vous dire en réception. Donc c'est vraiment des très faibles puissances. Des très faibles tensions, pardon. Pour la puissance, on a le watt. Donc on a le watt. Le kilowatt, je vous rappelle quand même qu'on a droit qu'à 500 watts maximum, donc à 2000 kilowatts. Voilà. Et puis les milliwatts, il n'y a pas grand chose. Ça sort pas grand chose, quoi. En termes de puissance, on peut aussi avoir des microwatts. Bon, enfin bon, ça c'est plutôt côté des générateurs et ce genre de choses. Mais donc on aurait pu rajouter ici l'unité du microwatt. En ce qui concerne la fréquence, évidemment, Hertz, ça c'est quand on est dans le domaine BF, jusqu'au kilohertz, domaine BF. Mais dès qu'on commence à toucher le monde de la radio, les ondes hertziennes commencent à 9 kHz et finissent à 300 giga. Au-delà, ce n'est plus des ondes radio, ce sont tout ce que vous voulez, mais ce n'est plus des ondes radio. Et évidemment, on peut avoir des mégavolts et des mégawatts, mais ça, c'est monsieur EDF qui a ça. Un mégawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire, je rappelle quand même. Donc voilà, on n'a pas encore des consommations telles dans nos installations radio, heureusement, sinon ça nous coûterait cher. Donc la fréquence maximum, c'est gigahertz. Térahertz, on n'est plus dans les ondes radio, on va se retrouver dans les infrarouges. Donc voilà, et puis encore, ça peut encore monter. Et en ce qui concerne des valeurs très petites, on va avoir le henry, donc c'est la valeur des bobines, et donc une valeur d'un henry, c'est un truc énorme. Et donc on va avoir plutôt du milli-henry, du micro-henry ou du nano-henry, voilà, qui sont des valeurs plutôt utilisées. Sachant que nous, on va plutôt utiliser des valeurs autour du micro-henri. Et enfin, pour les condensateurs, on a les farades. Alors, on peut utiliser des millifarades dans les alimentations. Comment dire, les capacités de régulation des alimentations. Donc, ça, c'est plutôt du millifarade, voire du farade quand c'est vraiment des grosses alimentations qui sortent beaucoup d'intensité. Mais. En règle générale, dans nos montages, on a plutôt du microfarad, du nanofarad, voire du picofarad. Voilà. Voilà. Donc, picofarad, c'est vraiment des toutes petites valeurs. Voilà. Pour votre information, mais ça c'est vraiment pour votre information, on a quand même d'autres multiples et sous-multiples. Donc, alors déjà, on a des préfixes qui ne sont pas multiples de 3. Et ça, on va plutôt les utiliser dans la vie courante. Donc, c'est le hecto, donc l'hectomètre, l'hectolitre. Voilà. Qui est donc. Multiplié par 100, 10 puissance 2, et le symbole c'est un H, le déca, donc le décamètre, hein, le décalitre, pas trop utilisé, qui est donc 10, déci, donc déca 10, déci 1 dixième. Vous remarquez hecto et déca, ce sont des mots d'origine grecque. Déci et centi, ce sont des mots d'origine latine. Hein? Puisque déca, c'est 10 en grec, et déci, alors je ne sais même plus d'ailleurs comment on se dit 10 en latin, je crois que c'est déci d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais bon. En tout cas, déca en grec, c'est 10, ça c'est sûr. Voilà, et centi, donc le centième. Hecto étant 100, donc multiplié par 100. Et un préfixe un peu bizarre qu'on a déjà vu quand on a fait la partie réglementation, Myria, donc c'est 10 puissance 4, on va l'utiliser uniquement dans le myriamètre, c'est uniquement dans cette partie-là, mais bon, je l'ai rajouté pour le fun. Et donc, ces préfixes-là, utilisés pour les longueurs, les masses et les volumes, essentiellement. Donc plutôt dans la vie courante et pas trop dans le monde des radioamateurs, sauf pour peut-être pour les longueurs. Mais aussi on a d'autres multiples et quand on va en augmentant, on en a parlé un petit peu le téra. Donc le téra c'est 10 puissance 12. Puis après vous avez le péta 10 puissance 15. Puis l'hexa, le zeta, le iota, le xena et le véca. Alors vous remarquez quand même, ici ça commence par un z, y, x, w, ou dans l'autre sens, w, x, y, z. Et ça finit toujours par un a. D'accord? Dans les sous-multiples, en dessous du picot, vous avez le femto, qui est très, enfin si il est utilisé, c'est, enfin tout au moins le femtofarad, c'est la capacité que vous avez entre les écarts de pistes de circuits imprimés. Ça se calcule en femtofarad et quelques mois, quelques fois, c'est quelquefois, comment dire, ça peut poser problème quand on monte en fréquence. Parce que du coup, ça rajoute un peu de capacité, peut-être à un endroit où il ne faudrait pas, et ça peut générer du coup des auto-oscillations. Voilà. Quand on va encore un peu plus loin, dans le petit, c'est ATO, donc 10 puissance moins 18, et après on va se retrouver dans le même système ici que les multiples, c'est-à-dire avec un Z, le Zepto, le Yocto, le Xeno et le Veco. Et donc comme ça, on va de 10 puissance 30 à 10 puissance moins 30. Vous remarquez que quand c'est sous multiple, c'est systématiquement une lettre minuscule, alors que quand c'est un multiple, c'est systématiquement une lettre majuscule, sauf pour le K. Et puis ici pour les multiples non multiples de 3. Donc ici partout c'est une lettre minuscule, majuscule, sauf ici le K. Et partout ici, une lettre minuscule de l'alphabet latin, romain, sauf ici pour le micro où c'est le comment le la lettre M, donc nu grec, qui va servir pour le micro. Donc cette espèce de U avec une barre devant, là, ça c'est un mu, et ça veut dire donc micro, donc 10 puissance moins 6. Et ça, vous allez le voir très souvent, ça, ce micro, donc ne soyez pas étonné si vous le voyez arriver, c'est donc 10 puissance moins 6. Et après, donc, tout le reste, ce sont des caractères minuscules. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va parler du système international d'unité. Donc en fait, n'oublions pas qu'on est, c'est nous qui avons, les Français qui ont inventé le système international d'unité, qui est inspiré du système métrique, et donc ce système international d'unité est utilisé normalement dans tous les pays du monde. Et en fait, c'est toutes les formules que l'on va voir, mathématiques qu'on va voir, font référence aux unités. C'est-à-dire qu'on a défini des unités, le volt, l'ampère, le hertz, machin, etc. Et à chaque fois, donc, on a des multiples et des sous-multiples. Et toutes les formules que l'on va voir se tiennent entre elles, et donc, quand on va parler de tension, on va systématiquement parler en volt. Quand on va parler d'intensité, en ampère. En longueur, ça va être le mètre. Le temps, ça va être la seconde. Etc, etc, etc. Et donc tout ce système international d'unité, ça s'appelle donc ce système international, c'est issu d'un système que l'on appelle MKSA. MKSA, c'est quoi? C'est mètre, kilogramme, seconde, ampère. Donc toutes les les British, c'est faux, hein. Les British, ils utilisent effectivement, comme vous savez, la livre, le mile, etc. Mais ça, c'est dans la vie courante des gens. Mais dans la vraie vie, ils n'utilisent pas du tout ça. Hein. Les techniciens, les scientifiques, eux, ils utilisent le mètre. Et pas du tout le pouce. Alors, il n'y a que aux États-Unis où il y a eu. Une vieille anecdote, ça, c'est du temps où les calculateurs, ils étaient faits à la règle à calcul, donc au temps des premières fusées, quand les premières fusées ont été envoyées dans l'espace, donc il y avait des calculs à faire, et donc dans ces calculs, d'ailleurs il y a eu un film là-dessus qui est sorti avec des femmes qui faisaient, enfin, qui vérifiaient les calculs que faisaient les hommes. Et donc, ces calculs, ils étaient faits en système international, sauf que, bah, évidemment, il y avait des vieux techniciens qui continuaient à utiliser les pouces. Et à un moment, eh ben, il y a eu des tas de formules qui ont été, comment dire, des résultats qui étaient faux, parce qu'ils utilisaient non pas le système international, mais ils utilisaient des formules avec les pouces. Et du coup, bah, on avait toutes les chances que la fusée, soit elle décolle pas, soit qu'elle explose avant même qu'elle décolle. Voilà. Donc, enfin, les scientifiques connaissent ce système international. Alors, c'est pareil en CAO, on utilise le pouce. Ça, c'est parce que c'est les mesures. C'est-à-dire qu'on sait que les écartements des pattes des circuits imprimés, c'est toujours du dixième de pouce. Et c'est comme la visserie, hein, enfin, qui vient d'un monde de la mécanique. Ben, on travaillait beaucoup avec le pouce et pas du tout en millimètres. Mais quand on parle de formules mathématiques, on est obligé de repasser par le système international puisque tout est basé là-dessus. Donc mon système, il est fondé sur le MKSA. Et MKSA, c'est quoi? C'est que toutes les formules mathématiques, à partir du moment où on va utiliser le mètre, une longueur, on va la donner en mètres. Lorsqu'on va avoir un poids, on doit la donner en kilogrammes et pas en grammes. Enfin, c'est le kilogramme. Un temps, ça ne peut être qu'en secondes, ça ne peut pas être en heures, en années. Donc typiquement, le kilomètre-heure n'est pas du système MKSA. On devrait parler en mètres-secondes et pas en kilomètre-heure. Voilà, typiquement. Et puis, donc, on a aussi l'ampère. Alors, quand on parle d'ampère, en fait, on a utilisé une des unités de l'électricité, mais derrière, on a, dès qu'on parle d'ampère, on va avoir résistance, intensité, puissance. Comme elles sont toutes liées, toutes ces unités, on n'en retient qu'une seule, et une seule permet comme ça de repasser dans toutes les autres facilement. Donc ça, c'était le système de base qui a donc été défini au départ. Et puis après, on a rajouté quelques unités en plus. Mais ça forme toujours le MKSA. On a rajouté la température. Alors la température, elle n'est pas en degrés Celsius, elle n'est pas en Fahrenheit. Etc. Elle est donnée en degrés Kelvin, c'est-à-dire c'est le Celsius plus ma température de mon moins 0 degré absolu, c'est-à-dire 273,16 degrés. Donc le degré, la température se mesure en Kelvin. On a aussi la quantité de lumière qui est le candela. Alors je ne vois pas à quoi ça peut servir ces trois unités-là pour nos besoins, mais voilà. Et enfin, on a la mole, donc c'est la quantité de matière. Encore une fois, je ne vois pas trop à quoi ça peut servir pour nos applications. Enfin, en tout cas, voilà, le système MKSA est fondé sur ces sept unités. Et on peut facilement passer de l'une à l'autre. On va utiliser, nous, le Kelvin, enfin le Kelvin, pardon, en français on dit le Kelvin. On va utiliser le Kelvin, notamment pour la température du bruit. Voilà, puisque le bruit, finalement, on va le définir avec une température. Ça semble un peu fou, mais plutôt que de donner des décibels, par exemple, et on peut aussi traduire ça sous forme de température. On verra ça, c'est quasiment à la fin. Voilà. Alors, ma jolie table de conversion, encore une fois, ça, il faut absolument l'avoir sous les yeux tout le temps, et notamment quand on passe examen. Donc, ce qu'il faut avoir sous les yeux, je résume, c'est mes triangles. Donc, les triangles qu'on va voir, notamment loi d'Ohm, loi de Joule, et cette table de conversion. Parce que la table de conversion, ça vous permet comme ça de bien positionner vos chiffres, parce que évidemment, les pièges à l'examen, ça va aussi être sur des résultats qui sont vrais à un rapport de 10 près. Et donc, en fait, c'est juste une histoire de positionnement de la virgule dans votre résultat pour essayer de vous perturber et de vous faire chuter. Donc, je vais revenir sur ma webcam. Ayez bien ce système-là en tête. On va revenir dessus. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est comment utiliser cette table de conversion qui est absolument indispensable pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, paf, je reviens là. Donc, ma table de conversion. Donc, je fais à chaque fois des crans avec 3. Donc ici, giga, méga, kilo, l'unité, ici le milli, le micro, le nano, et le pico. Donc unité, kilo avec, milli, pardon, je suis pas dans le bon sens. Milli, micro, nano, pico. Donc à chaque fois, j'ai trois crans pour mettre à chaque fois mes trois chiffres nécessaires. Hein, on est bien d'accord. Donc je ne vais pas trop déborder, ça va. Bon, ça tient toujours sur ma feuille, tout va bien. Et donc là, mon idée, c'est de positionner des chiffres. Alors premièrement, déjà, si j'aurais dû commencer par ça. Ça, cette première partie là, ça c'est ce qu'on appelle la partie entière. Ça c'est la partie décimale. Et ça, c'est ma virgule, et donc mon séparateur décimal. Important, en français, le séparateur décimal, c'est la virgule. Si vous êtes un Américain, le séparateur décimal, c'est le point. Voilà. Et donc, ne vous plantez pas à l'examen, ce qui est présenté, c'est avec la virgule, va représenter le séparateur décimal. Parce que vous pouvez avoir en séparateur de milliers, par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a 89 devant, on peut vous mettre un point ici, et ce point-là, généralement, en français, on n'en met pas. On met 89, et puis un espace, 123, pour dire 89.123,45. OK ? Mais, dans les questions d'examen, j'ai déjà vu, avec un point. Et ce point-là n'est pas un point de séparation, c'est pas un séparateur décimal, c'est un point séparateur de milliers. Sauf que normalement, les règles de présentation des chiffres nous disent que on ne doit avoir qu'un espace pour séparer les milliers pour que ce soit plus lisible. D'accord ? Important, les anglophones, quand ils utilisent un signe pour séparer les milliers, qu'est-ce qu'ils vont utiliser, eux? la virgule. Donc finalement, on risque de perturber plein de gens si on mélange les points et les virgules. Voilà, on risque de mélanger plein de gens, donc il vaut mieux ne pas utiliser, faire un espace de séparation entre les milliers pour que ce soit plus lisible, tout simplement. Hein. Parce que si, quand vous avez des grands chiffres, si vous ne les séparez pas, c'est absolument illisible. Hein. C'est comme un numéro de téléphone. Hein. Vous les mettez deux par deux ou trois par trois, mais ne faites pas tout grouper parce que vous n'arrivez plus à lire votre numéro de téléphone. C'est exactement pareil. Et donc, l'idée, c'est de séparer chacun des groupes de trois par un espace ou par un point. Mais à l'examen, il peut y avoir des réponses où on a un séparateur des signes, enfin, un séparateur de milliers qui est le point, à ne pas confondre avec le séparateur décimal, hein, qui permet, lui, de positionner le nombre. Donc si je veux positionner 123,45, comment je fais? Eh bien, je vais le mettre en dessous parce que c'est plus facile. Donc, et imaginons que ce sont des unités. 89 000, je m'en fous, hein, je l'avais rajouté là. Voilà. Donc, l'unité, donc ma virgule, elle est là. Mon 45, il est là. Et ici, j'ai 123. Donc, j'ai 123 045 qui est là. OK? Si je veux transformer ça en milli, c'est-à-dire me déplacer dans, parce que j'ai besoin du résultat, je veux en milli. Alors milli, ce que vous voulez, milliampère, millivolt, milliohm, je m'en fous, en milli. Il faut que je déplace ici ma virgule de 3 crans. Le problème ici, c'est que je n'ai que deux valeurs. Donc il faut qu'ici que je rajoute un 0. D'accord ? Et comme ça, je vais pouvoir déplacer ma virgule, la mettre là et la supprimer là. Donc là, j'ai 123 450 milli. Inversement, si j'avais voulu partir dans l'autre sens et non pas avoir des milli mais des kilos, donc je retire ça. Ma virgule qui était ici, je la déplace ici, et devant, ben, il me faut un 0. Et donc là, j'ai 0,123,12345, du coup, enfin, 0,12345, comme vous voulez. Vous avez le droit de le présenter comme vous voulez, mais voilà. Enfin, d'avoir tant de chiffres que ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Mais vous pouvez le présenter de cette manière-là. Donc, quand vous allez avoir vos résultats, n'oubliez pas de éventuellement convertir selon ce que, la réponse qui est proposée, la bonne réponse qui est proposée. Et n'oubliez pas aussi si vous avez, on va voir des exemples plus particuliers. Donc à chaque fois, vous voyez, quand on veut passer sur le multiple supérieur, il faut déplacer la virgule de 3 crans vers la gauche. Et quand on veut un multiple inférieur, eh bien il faut déplacer la virgule de 3 crans vers la droite. Sachant que s'il n'y a rien du tout, il faut ici mettre des zéros. Des zéros là où il n'y en a pas. Et si je voulais du méga, eh bien il faudrait ici que je rajoute des zéros ici pour avoir ici des méga. Voilà, donc il faut bien savoir jongler avec cette belle table de conversion. C'est très important. Parce que derrière, vous allez avoir plein de... il y aura des tas de questions qui vont être posées, évidemment, de manière tordue pour... C'est des pièges, quoi. Donc. Donc, il ne faut pas tomber dedans, quoi. Donc, c'est très important de bien maîtriser cette table de conversion, parce qu'évidemment, votre calculette, elle ne sait pas faire ça. Il n'y a que vous qui sachez le faire. La calculette va vous donner un chiffre, et après, il va falloir le positionner, ce chiffre. On verra ça plus précisément la semaine prochaine quand on parlera des calculettes. Pendant qu'on y est, on va faire quelques exercices. Donc, ce sont les exercices qu'il y a sur le cours, hein. Donc, c'est la page 35 du cours. Je supprime ce truc-là et on va faire les exercices qu'il y a sur le cours. Donc, l'exemple numéro 1, j'ai 250 kilos, donc j'ai 250, non 25 kilo-ohms, pardon. 25 kilo-ohms et je veux traduire ça en méga-ohms. Je suis tordu ce soir. Donc je commence par enfin, écrire mon 25 kilo-ohms, il arrive ici donc, puisque ici j'ai ma virgule. 0, voilà, j'ai rien derrière. Mais voilà. Donc c'est plus positionné à l'endroit où je dois le mettre. Et quand je suis en méga, donc je dois déplacer ma virgule de 3 crans vers la gauche. Mais je suis obligé d'ici de rajouter un 0 puisque il me le manque là. Du coup, ça ici, ça m'est inutile. Et là, pour refaire quelque chose de beau, de propre, on met un 0 devant, même si la calculette, si vous oubliez le 0 qui est juste avant la virgule, là, donc à gauche de la virgule, la calculette va comprendre quand même que c'est un 0. Donc là, mon résultat de 25 kilos en mégaohms, c'est 0, 0,25 méga. D'accord? Donc ça, c'est la première. La deuxième, on va passer de micro en milli. Donc j'ai 1500 microampères. Je veux transformer ça en milli ampères. Donc mes 1500 sont ici. Donc 1, 2, donc 500, 1500, les voilà. Ok? Mes 1500 microampères, un microampère, ils sont là, et mes milli, ils sont là. Donc ma virgule qui est ici, encore une fois, je vais la ramener vers la gauche. Puisque c'est un sous-multiple peut-être, mais il est supérieur. Donc là, je fais de 3 crans. Donc je l'emmène là, ma virgule, je retire ça. Et ça me donne donc 1,5 milliampères. Et enfin, le troisième exemple, là, au contraire, je vais aller dans l'autre sens. Alors je ne fais faire là que 3. Qu'un bond d'un seul multiple, donc on peut aussi en faire deux voire trois, c'est un peu compliqué des fois, mais bon, ça fait beaucoup de zéros après. Mais peu importe, c'est pour que vous compreniez. Donc de l'unité vers le milliampère, donc j'ai 0,45 volts, et je veux donc des millivolts. Donc mon unité, elle est ici. Ici, j'ai donc 0,45 et je veux arriver ici au millivolt. Il me faut donc trois chiffres là, trois crans, et donc je mets un 0 puisqu'il n'y a rien. Hein, 0,450, c'est comme 0,45, c'est la même chose. Et donc, là, quand je déplace ma virgule vers la droite, du coup, que j'ai un multiple plus petit. Donc ma virgule, elle passe là. Et donc ça me fait 450 millivolts. Voilà. Donc il faut bien que vous ayez ça en tête, cette transformation. En règle générale, dans les questions, dans les questions que vous allez avoir, on ne bouge que d'un seul cran. Quelquefois deux, c'est quand même assez rare, et souvent c'est un seul cran. C'est-à-dire qu'on a la réponse affichée par la calculette, par exemple, c'est du millivolt, et la réponse qui est proposée, elle va être donnée en volt. Donc il faut transformer ça. Voilà. Alors, on revient sur le PDF. Voilà. Donc, là, c'est... Enfin, on a vu donc cette transformation de comment dire, de multiples et sous-multiples. Maintenant, on va voir des cas tordus où on peut potentiellement additionner ou multiplier ou mélanger les choux et les carottes. Donc dans les additions et les soustractions, il faut toujours utiliser le même multiple. C'est-à-dire que si on a des milliampères, par exemple, pour pouvoir additionner tous ces milliampères, soit on les transforme en ampères, ou alors, si on veut garder les milliampères, il faut qu'ils soient tous en milliampères. On ne peut pas additionner des ampères avec des milliampères. On ne peut pas dire 1 ampère plus 6 milliampères, ça me donne 7 milliampères. Ce n'est pas possible. Enfin, tenez. 1 ampère plus 6 milliampères ne donne pas 7 milliampères. Ça donne 1,006 milliampères. Ampères, pardon. On va y arriver. Voilà. Donc, il faut absolument utiliser la même unité, le même multiple, ou le même sous-multiple, quand on est en addition ou en soustraction. Ça, c'est très important. En revanche, dans les multiplications, les divisions, on peut faire des opérations en séparant les nombres de la puissance de 10. C'est là que ça se complique. Donc quand on a des multiplications, les puissances de 10 s'additionnent. C'est-à-dire que si vous avez des kilos et des mégas, donc des 10 puissance 6 et des 10 puissance 3, eh bien, ça va donner des 10 puissance 9. Donc, les puissances s'additionnent. Dans les divisions, les puissances se soustraient. Exemple. C'est plus simple avec des exemples toujours. Lorsque vous avez une formule qui donne ça, donc 2 multiplié par 10 puissance 9, donc 2 gigas multiplié par 6 mégas, hein, 10 puissance 6, 10 mégas, et donc je divise ça par 3 kilos, 10 puissance 3, donc ça me donne 2 fois 6, c'est-à-dire que je fais mon addition sur les valeurs, ici, donc je fais les calculs, donc 2 fois 6 divisé par 3, ok, donc 2 fois 6, 12, divisé par 3, ça me donne 4, ça c'est facile, mais par contre, pour mes puissances de 10, ici, je vais additionner les puissances lorsqu'elles sont multipliées, et les soustraire lorsqu'elles sont divisées, donc 3 plus 6, ça me donne ici 15, et 15 moins 3, ça me donne 12. Donc mon résultat, ça me donne 4 multiplié par 10 puissance 12. Ok ? Je vous donne ça, ces choses-là, si vous voulez faire vos calculs à la main. Si vous ne voulez pas utiliser de calculette, que je ne vous conseille pas. Mais encore une fois, tous ces trucs-là, la calculette va savoir le faire. Mais c'est au cas où vous vouliez vous passer de votre calculette. Il y a des gens tordus, des fois, qui peuvent, qui en arrivent à ça. Lorsque la puissance de 10, elle est en dessous du trait de fraction, donc elle devient négative. Puisque ici, elle était négative. Et donc, si je fais 1 divisé par 2 puissance, enfin 2 multiplié par 10 puissance 3, donc 1 divisé par 2 kilos, ça me donne 0,5 multiplié par 10 puissance moins 3, donc 0,5 milli. De même, ici, 1 divisé par 5 micro, puisque c'est 10 puissance moins 6, ça va me donner 0,2 méga, puisque c'est 10 puissance 6. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, celle-là, peut-être pas de le faire de tête, mais celle-là, vous pourriez plus facilement la faire de tête. Et n'oubliez pas, quand vous faites une division, de changer le signe de la puissance de 10. Alors, quand on parle de l'élévation au carré, quand on a une puissance, donc, ça veut dire que on multiplie par 2 la valeur de la puissance. Donc si j'ai 5 ici, 10 puissance moins 3, donc milli, 5 milli au carré, ça me donne donc 5 fois 5, 25, tout va bien. Et là, donc c'est moins 3 fois 2, et donc mon milli se transforme en micro. Donc en tout, ça me fait 25 micros. Inversement, la racine carrée, si j'ai une racine carrée, alors on n'a pas eu le tableau. Ah ouais, je ne suis pas sur le tableau, je suis revenu sur le PDF. Et là, donc ici, j'ai ma racine carrée, et donc la puissance. Donc en fait, avec cette histoire de racine carrée, il n'y a que les puissances de 10 paires qui peuvent être utilisables. Puisque là, je vais diviser par 2 la puissance de 10. Et donc, ben, je suis coincé puisque ça, si je divise 3 par 2, ben, ça me donne puissance 1, enfin, 10 puissance 1,5. On n'en est pas encore là. Ça existe, mais on n'en est pas encore là. Et donc, je préfère ne pas vous en parler. En revanche, si j'ai une valeur comme ça, la 25, 10, 25 racine carrée de 25 multiplié par 10 puissance 4, qui n'est pas un multiple classique, eh bien ça me donne donc racine carrée de 25 multiplié par 10 puissance 4 divisé par 2, donc ça me donne 5 multiplié par 10 puissance 2. Voilà. Donc, ayez bien ça en tête. Encore une fois, pas de problème que vous n'ayez pas trop compris. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le système. Et de toute façon, les calculatrices, elles connaissent parfaitement ce système-là. Donc, c'est pas la peine de paniquer. En revanche, du coup, vous avez intérêt à bien savoir utiliser votre calculette et de toujours utiliser la même. Comme ça, vous saurez parfaitement comment elle fonctionne. Et où sont les touches? Parce qu'il y a quelquefois des touches un peu tordues. Par l'addition, la multiplication, la soustraction, tout va bien. On les trouve très facilement. Et quelquefois, ne serait-ce que la racine carrée, par exemple, ben, elle n'est pas aussi évidente à trouver. Elle est souvent dans des fonctions cachées. Enfin, cachées dans des fonctions secondes qui ne sont pas tout de suite sous les yeux. Quelques exemples qu'on va faire cette fois-ci sur le tableau blanc que j'efface. Que j'efface. Voilà. Alors, mes crayons, les voilà. Donc, première opération, on va faire une addition. Donc, on va faire 3 multiplié par 10 puissance 3 plus 5 multiplié par 10 puissance 6. Donc 3 kilos plus 5 mégas. Donc là, tout simplement, hein, je fais 3000. 5 mégas, 5, 0, 0, 0, 5 mégas. Je fais mon addition. Ça me fait 5000, 3, comme ça, qui est peut-être pas très lisible, ou 5003 multiplié par 10 puissance 3. Voilà. Ça, addition, soustraction, évidemment, ça va marcher de la même manière. Il n'y a pas grand intérêt de faire ce genre de manip, enfin, d'utiliser des puissances de 10 quand on utilise des additions ou des soustractions. En revanche, ça commence à être plus intéressant quand on fait des multiplications. Donc, on va faire 3 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par 5 multiplié par 10 puissance 6. Comment je fais? Donc, c'est 3 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par 5 point 10 puissance 6. Ici, 3 fois 5, 15, multiplié par 10 puissance 3 plus 6. Et donc, ça me donne 15 multiplié par 10 puissance 9. Donc, kilo multiplié par méga, ça me donne des gigas. D'accord? Et enfin, le carré. Donc, 5 multiplié par 10 puissance 3 au carré. C'est quoi? C'est 5 au carré multiplié par 10 puissance 3, le tout au carré. Donc 5 puissance 2, ça me fait 25, multiplié par 10 puissance 3 au carré, c'est 10 puissance 3 fois 2, donc 25 multiplié par 10 puissance 6. Voilà les conversions que l'on peut faire à partir de ces opérations de base. Donc, important, entraînez-vous, alors peut-être pas tout de suite, mais à partir de la semaine prochaine, d'utiliser le tableau conversion. Alors peut-être pas de faire ces opérations à la main, mais voilà, utilisez ce genre de choses parce que vous allez en avoir besoin quand vous allez faire des exercices, parce que sinon... ça, vous allez galérer. Donc il vaut que faut que vous ayez tout le temps ce tableau de cette table de conversion sous les yeux. Avant de se dire au revoir, quelques questions à poser à l'examen. Alors ça semble voilà, il y en a pas beaucoup, j'avoue. J'en ai recensé de mémoire 4, mais voilà, c'est des points qui, à mon sens, sont faciles à avoir, donc c'est dommage de passer à côté. Donc, première question, 10 microfarads, c'est égal à quoi? Est-ce que c'est 100 000 picos? Est-ce que c'est 1000 nanos? Est-ce que c'est 1 nano? Ou aucune de ces réponses? En fait, on reprendra, enfin, on va voir tout à l'heure la table de conversion, mais 10 micros, lorsque je suis en picot, ça va être donc 10 millions de picots. Puisque c'est 10 puissance moins 6 le micro et 10 puissance moins 12 le picot. Donc entre les deux, il y a 10 puissance 6. Et 10 puissance 6, c'est donc méga, donc il y a Donc ça fait 10 millions de picofarads. Si je suis en nanofarad, ça m'en fait 10 000. Et si j'ai... Alors, et en nanofarad, ça me donne 0,01 nanofarad. Donc finalement, il n'y a aucune des réponses. Autre question, 10 puissance moins 5 égale quoi? Alors, c'est égal à quoi? Est-ce que c'est 100 000? Non, parce que 100 000, c'est 10 puissance 5. C'est pas moins 5, c'est 5. 1 sur 100 000, ça me semble pas mal. Ici, je compte le nombre de chiffres significatifs pour arriver jusque-là, donc ça me fait un 10 puissance moins 4. Hein, c'est-à-dire que j'ai 4 chiffres ici, avant, enfin, 3 zéros avant mon chiffre significatif. Donc ici, je suis à 10 puissance moins 4. Non, c'est surtout pas 5. Voilà, donc ça, c'est des questions qui ne sont pas réellement des questions techniques, enfin, voilà, et qui, à mon sens, c'est plus perturbant qu'autre chose, à mon sens. Mais voilà, il faut réfléchir un petit peu. Mais c'est des questions qui sont faciles des points qui sont faciles à engranger, donc il faut y aller. Je vous ai mis les réponses ici. Donc avec ici ma belle table de conversion. Et mon. Alors là, elle est mal passée parce que du coup, elle a bouffé une partie là, du texte. Là. Je suis désolé, il faudrait que je refasse le PDF un peu mieux. Donc là, 10 micros est égal à 10 000 nanos ou 10 millions de picots. Donc c'est aucune des réponses qui sont proposées ici. Et donc 10 puissance moins 5, c'est donc bien 1 divisé par 10 puissance 5. 10 puissance 5, ici j'ai bien mes 5 zéros. Donc c'est bien 10 puissance 5. J'ai oublié de préciser que la puissance, donc 10 puissance quelque chose, 10 puissance 3 par exemple, c'est que j'ai 3 zéros derrière, enfin 10, 1 avec 3 zéros derrière. Donc la 10 puissance 5, 10 puissance moins 5, c'est 1 divisé par 10 puissance 5, et 10 puissance 5, donc j'ai 5 zéros. 10 puissance 6, j'en aurai 6, etc. etc. Et donc là, si on reprend mon 10 puissance moins 5, voilà comment ça va se présenter sur ma table de conversion. Ici, j'ai bien ma virgule ici. Et donc ici, 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je suis bien là. Tout au moins, j'ai ma virgule ici et je suis à 10 puissance moins 5. Voilà. Donc 10 puissance moins 5, ça correspond aussi à 10 micros. 10 micros quoi? Ça, c'est à vous à imaginer ce que l'on peut avoir comme calcul derrière. Ben voilà, ainsi se termine cette soirée qui, du coup, n'est pas très long. Mais je pense que c'est dense pour tous ceux qui reprennent un peu la technique après quelques années, de l'avoir oubliée pendant quelques années. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine avec votre calculette. Bye bye.